Quatrième, histoire, thème 1, le 18e siècle, expansion, lumière et révolution, le cours. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire ce cours et puis parfois le commenter. Il sera divisé en 4 parties. Première partie, nous serons sur l'expansion européenne au 18e siècle. La seconde partie portera sur l'Europe des Lumières. La troisième partie, la Révolution française de 1789 à 1799. Et nous terminerons, quatrième partie, l'échec d'une Europe conquise et révolutionnée par la France, 1799-1815. Alors, je commence par la première partie, l'expansion européenne au XVIIIe siècle. Alors, tout d'abord, faut rappeler que c'est une Europe qui est puissante à ce moment-là. En 1713, les traités d'Utrecht instaurent une paix relative en Europe. Après une grande période de guerre, les rivalités entre les États s'expriment alors par la conquête de territoires sur les autres continents. En agrandissant son empire colonial, l'Angleterre devient, à partir de 1763, la première puissance mondiale. L'Europe connaît une période de croissance économique. L'agriculture et l'artisanat sont prospères, hein, c'est-à-dire qu'on s'enrichit grâce à ces deux activités. Les marchands cherchent de nouveaux débouchés pour les productions. Ce dynamisme se traduit par l'augmentation de la population. Elle passe de 42 millions d'habitants à 145 millions d'habitants en 1800, c'est-à-dire un petit peu en un moins d'un siècle. Elle est multipliée par pratiquement un peu moins de 4. C'est aussi l'âge d'or du négoce international. Je rappelle, le négoce, c'est le commerce international. L'essor du grand commerce maritime international, c'est-à-dire l'essor, le développement, mais également de la traite, le commerce d'esclaves, d'hommes et de femmes, se déroule surtout durant la période 1665-1750, sachant que la traite, elle, continue à connaître des niveaux élevés au cours des premières décennies du 19e siècle. La mise en valeur des colonies en Amérique et dans les Antilles provoque une forte demande de produits européens comme les armes. En échange, les colonies fournissent à l'Europe de nouveaux produits comme le sucre. Le commerce atlantique fait la fortune des négociants encouragés par les souverains européens. Vers l'océan Indien, le commerce est aux mains des compagnies commerciales, l'économie de plantation pour le sucre, le cacao, le café, le tabac connaît à la fin du XVIIe siècle un essor considérable aux Amériques et dans l'océan Indien. Alors, vous avez entendu, hein, on parle économie de plantation, donc des produits essentiellement liés donc, à l'agriculture, sucre, cacao, café, tabac, qui ont à ce moment-là un point commun, ce sont des cultures qui ne sont pas présente en Europe. Ce commerce mondial, il enrichit les régions, surtout littorales de l'Europe de l'Ouest, puisque évidemment, on part à partir de ports. Les ports comme Londres ou Bordeaux exportent et redistribuent les produits coloniaux dans toute l'Europe. La majorité des échanges avec les colonies se fait par le commerce maritime en droiture, qui ne comporte pas de traite, c'est-à-dire qu'on part de Bordeaux, on va directement dans les Antilles françaises. Là, on va vendre les armes, par exemple, et on revient en achetant du sucre ou du cacao qui est ensuite revendu. Les navires partent alors donc avec des biens qui sont destinés à être vendus aux colonies et reviennent avec ces denrées coloniales. Les bénéfices obtenus par ce commerce colonial sont plus importants en Angleterre qu'en France. En France, l'enrichissement et le développement des ports de Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Rouen profite aux arrière-pays, mais les fragilise aussi. L'essor industriel au XIXe siècle voit ainsi la France atlantique, liée au commerce colonial ancien, être largement dépassée par celle du Nord et de l'Est. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. C'est vrai que même encore aujourd'hui, la France actuelle de l'Ouest, la France atlantique, est moins industrialisée que la France du Nord et de l'Est. C'est en grande partie, ce retard, il est lié en grande partie à ce commerce de négoce. Il en va différemment de Marseille, qui écoule ses produits suivant l'axe du Rhône, mais ce port est plus tourné vers la Méditerranée et le Levant que que vers les Amériques. On va maintenant aborder la traite atlantique et l'esclavage. La traite liée à la montée des échanges internationaux est donc un phénomène important qui engendre le déplacement forcé d'au moins 11 millions de personnes. Alors attention avec les chiffres, hein. Il est difficile d'avoir un chiffre précis. 11 millions, c'est évidemment considérable. Il est certainement peut-être supérieur encore à la réalité. Les plantations des colonies demandent une main-d'œuvre abondante. Les négociants mettent alors en place la traite atlantique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. D'où cette notion de commerce triangulaire, hein, on parle de circuit particulier, sans se limiter évidemment à ce commerce triangulaire, parce qu'il y a aussi des liaisons parfois directes qui vont du Brésil à l'Afrique. Les navires donc partent vers l'Afrique pour y échanger et acquérir des esclaves contre des articles manufacturés, c'est-à-dire fabriqués dans des manufactures, qui ne sont pas forcément des produits sans valeur, hein, qu'on appelle des produits de pacotille. Ça peut être des armes, ça peut être des tissus, ça peut être du mobilier, et également des matières premières. Ils vont ensuite aller vers les Amériques ou les îles de l'océan Indien, avant de revenir chargé de denrées coloniales. L'esclavage en Afrique, antérieur à l'arrivée des Européens, puisqu'il a d'abord été pratiqué par les peuples arabes, va évidemment s'amplifier au XVIIIe siècle. Ce phénomène de la traite négrière s'inscrit à la fois donc, dans l'histoire longue de l'esclavage, mais aussi dans celle du développement du commerce maritime international. La traite occidentale se superpose à une traite orientale plus ancienne, qui a commencé au 7e siècle, et qui allait de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara, à l'Afrique du Nord, et qui irriguait l'ensemble du monde musulman. La traite occidentale est liée à l'expansion européenne et commence dès le 15e siècle avec le Portugal. Plus de 6 millions d'esclaves noirs sont déportés en un siècle. En Amérique et aux Antilles s'installent des sociétés donc inégalitaires et violentes. À Saint-Domingue, qui est régi par le Code Noir de 1685, les esclaves se révoltent en 1791. En France, les libéraux comme Turgot ou Dupont de Nemours critiquent l'inhumanité de la traite. Ils mettent en question le bénéfice économique retiré par le royaume. Le commerce colonial profite-t-il donc à l'ensemble du pays ou n'est-il qu'une source de revenus de grands négociants? Donc il est à noter quand même que cette traite des esclaves, elle est de son temps, elle n'est pas acceptée par tous et elle est également critiquée, dénoncée. Aujourd'hui, rappelons qu'il y a un débat autour de cette traite négrière. Hein. Certaines associations souhaiteraient l'élever au rang de crime contre l'humanité, comme on l'a fait pour, par exemple, le génocide contre les populations juives durant la Seconde Guerre mondiale. Ça reste un débat qui n'est pas clos et qui est encore, je dirais, visible dans ses traces, qu'elles soient humaines, qu'elles soient historiques, qu'elles soient sociales, voire économiques, notamment pour le continent africain. On va passer à la deuxième partie, l'Europe des Lumières, donc avec le L majuscule. Donc vous le savez, les Lumières, hein, c'est un mouvement qui va donner un nouvel élan intellectuel à l'Europe. L'ouverture accrue sur le monde correspond donc à un progrès des connaissances. Les Lumières bénéficient des grands progrès des connaissances scientifiques du XVIIe siècle, notamment avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ces deux philosophes. En même temps, cette encyclopédie, elle diffuse elle-même de nouvelles idées, elle fait ainsi une synthèse des connaissances scientifiques et techniques disponibles. Au XVIIIe siècle se manifeste un renouveau intellectuel européen. Des scientifiques comme Carl von Linné ou Buffon font de l'observation et de l'expérimentation l'origine de toute connaissance. Donc là, on est vraiment dans une démarche scientifique. Une nouvelle génération de philosophes comme Voltaire pose comme principe que la raison doit guider toute réflexion intellectuelle. Donc là aussi, c'est intéressant puisque on est très éloigné de la religion qui souvent détenait ou croyait détenir le savoir universel et qui ne pouvait pas être remis en question. Les récits de voyage révèlent également l'existence d'autres sociétés. C'est aussi pour d'autres un moyen de s'interroger sur notre propre société et sur ses soi-disant vérités. Les récits de voyage donc nourrissent la réflexion des philosophes comme Montesquieu ou Diderot et notamment apportent une nouvelle réflexion sur l'organisation politique et sociale de l'Europe. Qu'il s'agisse de l'organisation du pouvoir, de la religion ou de l'économie, on cherche donc désormais avant tout ce qui est conforme à la raison. Alors évidemment, les autorités vont réagir par rapport à ce mouvement des Lumières. Les philosophes des Lumières ont des relations complexes avec le pouvoir politique. Ils ne veulent pas en accepter les principes sans exercer leur libre pensée. Ils espèrent être influents par leurs idées. Ainsi, Voltaire est reçu par Frédéric II de Prusse, despote éclairé. De son côté, Diderot est reçu par Catherine II de Russie, également despote éclairé. Avec l'Église, les conflits sont fréquents, évidemment. Les Lumières ne contestent pas forcément l'existence de Dieu, mais ils refusent d'accepter, une vérité sans questionner cette vérité, sans questionner les croyances et sans questionner le fonctionnement de l'Église. L'Église se ferme et elle répond par la censure vis-à-vis de ses philosophes. Les philosophes des Lumières remettent en cause aussi les fondements de la monarchie absolue. Jean-Jacques Rousseau affirme que le peuple est souverain et Montesquieu admire le modèle anglais qui sépare les pouvoirs. Je rappelle qu'on est sur une monarchie parlementaire dans le cas de l'Angleterre. Des femmes influentes comme la marquise de Pompadour ou Madame Geoffrin leur apportent un soutien politique et financier précieux. En somme, deux visions s'opposent dans la relation des Lumières et du pouvoir. Comme Montesquieu, certains philosophes placent en face du pouvoir royal des contre-pouvoirs dominés par l'aristocratie. D'autres, comme Diderot, jugent nécessaire de s'appuyer sur un pouvoir royal fort, influencé par les philosophes. C'est ce que les historiens allemands du XIXe siècle ont appelé le despotisme éclairé. Alors, je ne reviendrai pas sur les valeurs et les critiques des philosophes des Lumières. Je vous incite à écouter de nouveau le document qui a été enregistré sur les Lumières et le tableau qui avait été fait notamment avec la critique du pouvoir, la critique de la religion, la critique de la société et la critique de l'esclavage. On va terminer sur les Lumières et la société. Donc les philosophes débattent entre eux au sein des salons, comme celui de Madame Geoffrin, on l'a dit il y a un instant, et dans toute l'Europe par une intense correspondance, donc par des lettres essentiellement, ou des voyages. Les académies comme la Royal Society de Londres en 1660 et de l'Académie royale des sciences réorganisée en 1699 se multiplient. Les idées se diffusent grâce aux cafés littéraires, aux salons de lecture et aux bibliothèques qui se généralisent. En France, la presse écrite compte 80 titres en 1750 et 250 en 1789. Même si tout le monde ne sait pas lire, vous comprenez bien qu'on est sur un phénomène important. Ces espaces publics où l'on apprend donc à penser par soi-même vont favoriser la formation progressive d'une opinion publique. Avec la traite négrière, c'est l'aspect humain qui pose désormais question. Le débat commence au XVIIIe siècle. Montesquieu critique l'esclavage dans l'esprit des lois en 1748. Les Quakers, c'est-à-dire la société religieuse des Amis, qui est un mouvement religieux dans les futurs États-Unis d'Amérique, crée dès 1775 la première société pour l'abolition de l'esclavage, suivie en Angleterre en 1787 et en France en 1788. On l'a dit, en 1791 a lieu la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Nous passons à la troisième partie, la Révolution française de 1789 à 1799. Donc, tout d'abord, on va observer comment nous passons de la monarchie à la République. En France, Louis XVI ne parvient pas à mener à bien une indispensable réforme fiscale. Je rappelle qu'en France se pose le problème du tiers-État qui paie des impôts, qui représente 97% de la société, et à l'inverse, le clergé et la noblesse, 3% de la société, qui font partie des privilégiés et qui ne paient pas d'impôts. Donc la rupture entre les Français et la monarchie absolue va éclater en 1789, En juin 1789, lors des États généraux à Versailles, qui réunit donc les trois ordres du royaume, clergé, noblesse, tiers état, eh bien une partie des députés vont s'opposer au roi en se proclamant Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire qu'ils vont refuser le vote traditionnel un ordre égale une voix, puisqu'à chaque fois ils perdent contre la noblesse et le clergé, et ils vont se révolter, se rebeller, en disant voilà, nous allons réécrire une constitution pour travailler ensemble avec le roi, donc dans un esprit de monarchie parlementaire. Durant l'été, la diffusion de la révolution à Paris, puis à tout le pays, va précipiter la fin de la monarchie absolue, qui est symbolisée notamment par la prise de la Bastille le 14 juillet, mais aussi par le 4 août et l'abolition des privilèges, notamment les privilèges, y compris des seigneurs, auprès des paysans dans toutes les campagnes de France. La monarchie constitutionnelle va être un échec. Les Français restent divisés sur le choix d'un mode de gouvernement. Le roi Louis XVI, qui a tenté de fuir à l'étranger avec sa famille, est évidemment maintenant considéré comme un traître et il est emprisonné en 1792. En septembre 1792, une nouvelle assemblée fonde, à ce moment-là, donc la Première République, puisqu'on n'a plus de roi. Et face aux contre-révolutionnaires, puisqu'on a un certain nombre de Français qui considèrent que la révolution va trop loin, eh bien, les montagnards, c'est-à-dire les plus révolutionnaires, imposent une sanglante répression à partir de l'année 1793, qui durera à peu près un an. Et cette répression, on lui a donné le nom de terreur, avec un T majuscule. Pour faire les choses, les dire simplement, hein, vous êtes révolutionnaire ou bien vous êtes arrêté et vous êtes condamné à mort. En 1794, le retour des républicains modérés ne permet toujours pas de réconcilier les Français. Ces divisions favorisent le coup d'État du général Bonaparte en novembre 1799. Alors ça, c'était pour la partie historique, hein, je suis allé très vite dessus, on a beaucoup plus de choses à dire. On va voir maintenant les effets sur la France et on va parler de France nouvelle. Dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on l'appelle la DDHC pour son sigle, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès 1789, affirme des valeurs comme la liberté et l'égalité. La souveraineté nationale s'exprime en 1792, on l'a vu, avec la Première République et avec la première élection au suffrage universel masculin. Suffrage universel masculin, les femmes n'ont pas le droit de voter, mais riches et pauvres ont le droit de voter. On doit également relever dans cette France nouvelle la création des départements, qui, je vous rappelle, existent toujours aujourd'hui, hein. C'est un héritage de la Révolution française. Et également la suppression des douanes intérieures. Le territoire est donc restructuré pour renforcer l'unité nationale. La taille d'un département avait été choisie à ce moment-là par rapport à la superficie qui pouvait être traversée à cheval en une journée. La société est révolutionnée par des réformes au profit de la bourgeoisie. Ainsi, les biens du clergé sont confisqués et revendus aux bourgeois aisés. Autre point dans cette révolution française, c'est l'expansion de la révolution en Europe. Ça, c'est une particularité de cette révolution. En 1789, une partie des peuples européens, soumise à des princes autoritaires, sont plutôt favorables à la révolution française. Mais après l'exécution de Louis XVI en 1793, les souverains européens redoutent la diffusion des idées révolutionnaires, qui va donc jusqu'à la condamnation à mort d'un cousin, je dirais, hein, puisque ces monarques européens sont souvent liés par des mariages, et donc ils décident d'attaquer la France. Donc je rappelle, hein, au passage, hein, 1793, c'est la terreur, on a des contre-révolutionnaires en France, et on a aussi une France qui est attaquée de l'extérieur. Donc la République va répondre grâce à la levée en masse d'une armée et parviendra à repousser les armées des États hostiles, comme en Italie et même imposer sa domination. On arrive à la dernière partie, quatrième partie, l'échec d'une Europe conquise et révolutionnée par la France, 1799-1815. Donc on est sur la fin de cette révolution qui est partagée entre un retour sur un régime monarchique, mais en même temps sur une France qui va faire un héritage, une synthèse de cette révolution, mais également une France qui va s'étendre et qui va attaquer une partie de ses voisins européens pour se transformer en empire. Alors d'abord, le retour d'un régime monarchique. Pour Bonaparte, seul un pouvoir politique fort peut redresser la France. Donc il prend le pouvoir par la force et il transforme la République tout d'abord en consulat en 1799 et il va limiter la souveraineté nationale. Puis en 1804, il va aller beaucoup plus loin dans sa prise de pouvoir puisque Bonaparte devient Napoléon Ier, empereur au large pouvoir. Il n'empêche qu'il va mettre en place des réformes sociales importantes qui visent à rétablir la cohésion nationale. Alors on va en citer quelques-unes hein, qui sont encore souvent d'actualité. Le Code civil de 1804 qui s'appuie sur les valeurs traditionnelles de la famille et de la propriété, mais qui confirme aussi de nombreux acquis révolutionnaires, comme par exemple l'égalité civile. Les premières années, la prospérité économique va être soutenue, notamment par des réformes, comme la création du franc germinal en 1803 ou la création de la Banque de France. Cette prospérité économique assure à Napoléon une adhésion assez importante auprès de la population. L'Europe nouvelle, à partir de 1803, des guerres permanentes conduisent la France à dominer l'Europe. Son territoire est agrandi par des annexions. Elle contrôle de nombreux territoires, de nombreux États dirigés par la famille Bonaparte et par des princes alliés. Des traités de paix sont signés avec les puissances rivales comme la Russie. Donc ça permet à la France de diffuser les idées de la Révolution française dans toute l'Europe. De nouvelles constitutions font disparaître les principes d'ancien régime. Ces bouleversements qui révolutionnent les sociétés européennes sont dans un premier temps, on l'a dit, bien accueillis, notamment par exemple en Italie, en Belgique. Mais à partir de 1807, la France, qui est à son apogée de son rayonnement politique en Europe, eh bien, va peu à peu se transformer comme une France occupante, une France impérialiste, et elle sera peu à peu rejetée. Alors je vais revenir sur cette Europe napoléonienne pour vous présenter en 1811 l'Empire français dans son extension la plus importante. Donc vous prenez la France d'aujourd'hui, vous y ajoutez la Belgique, les Pays-Bas, une petite partie de l'ouest de l'Allemagne, le nord de l'Italie et y compris même une partie de l'Italie centrale autour de Rome, et bien tout ça, c'est l'Empire français. Les territoires qui sont dépendants de cet empire, ensuite, on a toute l'Espagne qui est conquise, qui est dépendante de l'Empire français, on a le reste de la future Italie qui n'existe pas encore avec le royaume d'Italie et le royaume de Naples. On a également l'Allemagne qui n'est pas encore également constituée, mais qui à ce moment-là s'appelle la Confédération du Rhin, la Westphalie, c'est-à-dire une grande partie de l'Allemagne d'aujourd'hui, qui sont également des territoires dépendants de cet empire français. On a également la future Pologne, qu'on appelle à ce moment-là le Grand-Duché de Varsovie. Voilà, je vais par la Suisse également, je ne vais pas citer tout. Donc voyez que cet empire, il est relativement conséquent. Maintenant, passons à ceux qui sont opposés à l'empire français, ceux qui sont coalisés contre la France, ils sont donc unis contre la France. On a évidemment le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. On a l'Empire d'Autriche, mais pas seulement. On a aussi l'Empire russe, le Royaume de Suède et le Royaume de Prusse. Voilà, donc comme vous le savez, cet empire va s'effondrer en 1815. On va donc revenir aux résistances nationales, je vous le disais tout à l'heure, hein, la domination française fait peser de nombreuses contraintes, comme les impôts et les pillages, sur les territoires dominés. La France exige aussi toujours plus de soldats pour ses armées. Napoléon, donc, fait de nombreuses campagnes, hein, militaires, avec des pertes humaines qui se comptent en centaines de milliers d'hommes. Et donc les résistances se généralisent. Goya en Espagne et Fitch en Allemagne dénoncent la tyrannie de Napoléon et témoignent de la naissance de sentiments nationaux, notamment Goya par deux tableaux célèbres qu'il a appelés donc, les 2 et 3 mai, 12 des maillots et 13 des maillots, deux tableaux qui montrent la révolte des Madrilènes contre les troupes napoléoniennes et également le lendemain donc comment les troupes napoléoniennes se sont vengées sur une partie de la population civile qui s'était révoltée. Les défaites militaires comme à Leipzig, en 1813 vont précipiter l'échec de Napoléon et l'empire de Napoléon s'écroule en 1815. Alors là, encore une fois, je m'excuse, hein, j'ai vraiment été au plus direct. Hein, évidemment, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail pour cette Révolution française. Vous avez ici l'essentiel des grands thèmes de cette Révolution.